VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey, yeah. I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait, yeah. I make sure that Northside E. And still, bad things.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous, Anastasie Tudiache avec vous, il est 18h30 en temps universel, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, au Tchad, faible mobilisation à N'Djamena pour le jeudi de la colère. Peu de mobilisation au Burundi également pour l'enrôlement des électeurs en vue du référendum constitutionnel. Arrestation en Guinée après des affrontements post-électoraux. Dans 10 minutes, c'est la Minute Écho et les sports, mais d'abord le journal. Peu de Tchadiens sont descendus dans les rues aujourd'hui pour le jeudi de la colère organisé par la société civile contre les mesures d'austérité et la mauvaise gouvernance. Une marche à N'Djamena, la capitale, a été interdite par les autorités. 12 des manifestants ont été interpellés d'après la police. Faisons le point avec Saloua Jafari.
Une journée presque comme les autres, à N'Djamena, la journée de la colère n'a pas mobilisé grand monde. Une vingtaine de personnes, dont le leader de la société civile, Mohamed Nour Ibedou, se sont rassemblées en début de matinée dans le centre de la capitale tchadienne. Le groupe a entamé une marche avant de se disperser. Un autre rassemblement de moins de 10 personnes a eu lieu devant une poste du sud de la ville, scandant des slogans contre le président Idriss Déby. Ces chiffres ont été confirmés par le porte-parole de la police. Les manifestations avaient été interdites par le gouvernement pour des raisons de sécurité et une forte présence policière a été visible sur la plupart des ronds-points de la ville, alors que la police quadrillait les grandes artères. Depuis fin janvier, les appels à marcher contre les mesures d'austérité imposées par le gouvernement se sont multipliés. Autant que les interdictions du gouvernement. Mardi, pour avoir soutenu un appel à manifester, 10 partis d'opposition ont été suspendus pour 2 mois pour troubles à l'ordre public et incitation à la violence.
Saloua Jafari. Le cinéaste Mahamat Saleh Haroun, primé au Festival de Cannes en 2010, qui était ministre de la Culture et du Tourisme depuis un an au Tchad, a été démis aujourd'hui de ses fonctions par un décret gouvernemental sans qu'en soient précisées les raisons. Les électeurs burundais âgés de plus de 18 ans ou ceux qui auront le même âge en 2020 ont commencé à s'inscrire ce jeudi matin sur les listes électorales avant le référendum prévu en mai. Cet enrôlement des électeurs se clôture dans 9 jours. Ce référendum constitutionnel est contesté par l'opposition. Plus de 4 millions d'électeurs sont attendus selon la Commission électorale nationale indépendante. Le point tout de suite avec le correspondant de VOA Afrique au Burundi, Christophe Nkurunziza.
Nous venons ici pour acheter un ticket qui nous permettra d'aller à la compétition ou d'aller assister au match. Vous ne pouvez pas aller assister au match, vous n'allez pas aller à la compétition sans pouvoir avoir le ticket. Nous demandons à tous les Burundais, au peuple burundais, surtout les partis politiques, de pouvoir s'enregistrer afin d'avoir l'autorisation de participer aux compétitions qui viendront demain.
Voilà le message que le premier vice-président de la République, Gaston Sindimo, a lancé à tous les Burundais ce jeudi au lycée municipal du quartier Nyakabiga, au centre-ville de Bujumbura. Cette inscription des électeurs électeurs se terminera dans 9 jours, selon la Commission électorale nationale et indépendante. Parmi les électeurs, certains ne savaient même pas pourquoi ils étaient venus s'enregistrer. D'autres ne connaissaient pas les principaux changements apportés dans la nouvelle constitution qui permettra au président Pierre Nkurunziza de briguer 2 mandats de 7 ans à partir de 2020. La candidature du président burundais en 2015 pour un 3e mandat controversé a été le prélude d'une crise sociopolitique qui a fait au moins 1000 morts et plus de 400 000 réfugiés dans les pays limitrophes, selon les Nations Unies. Rappelons que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a pointé du doigt la volonté des autorités de Bujumbura de réformer la constitution sans dialogue préalable avec l'opposition et la société civile intérieure en exil. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Les élections sénatoriales au Cameroun ont été fixées au mercredi 25 mars, mais ont été fixées hier au 25 mars. Et un conseil constitutionnel chargé de proclamer les résultats des élections a été créé dans le pays selon des décrets présidentiels. De la drogue et des munitions ont été découverts dans le centre de la Centrafrique, cachés dans un camion affrété par une entreprise privée sous contrat avec l'ONU. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui la mission des Nations Unies en RCA, la MINUSCA, qui a ouvert une enquête. En Guinée, au moins 50 personnes ont été interpellées suite à des violences qui ont fait 5 morts après les élections locales de dimanche. Dilidico.
Les arrestations ont eu lieu à Kalinko, dans une localité située au centre de la Guinée, où des cases et des maisons ont été incendiées mardi. Bouré Makonde, ministre de l'administration du territoire, a indiqué mercredi que 5 enfants ont péri dans ce village à la suite d'un incendie volontaire. Une version démentie par un député local de l'opposition, Fodé Marega, qui évoque un bilan de 3 enfants tués dans un incendie et 2 adultes brûlés vifs par des manifestants en colère. Selon le préfet Mamadou Lamarana Diallo, les forces de l'ordre ont interpellé au moins 50 personnes qui ont toutes été transférées à la prison de Farana. Depuis dimanche, les violences post-électorales ont aussi causé la mort d'un étudiant à Conakry et d'une personne à Kindia, dans l'ouest du pays. L'opposition affirme que ces élections locales ont été entachées de fraudes massives. Mardi, elle a appelé la jeunesse à se mobiliser pour exiger la vérité des urnes. Les résultats sont promis demain, vendredi.
Après plusieurs semaines de fronde sociale, la polémique enfle sur les salaires des membres du gouvernement au Bénin au lendemain d'une rencontre entre le chef de l'État et des syndicats qui demandent la publication de la fiche de paie de tous les ministres. La Gambie est de retour dans le Commonwealth aujourd'hui après un retrait soudain en 2013. L'ancien président Yahya Jammeh a retiré son pays du Commonwealth qu'il avait qualifié d'extension du colonialisme. L'organisation rassemble les pays issus de l'ex-empire britannique. L'opposition sud-africaine a accentué la pression sur le président Jacob Zuma en demandant d'avancer du 22 février au 13 février, c'est-à-dire la semaine prochaine, le vote d'une motion de défiance pour sortir au plus vite de l'impasse créée par son refus de démissionner malgré les injonctions de son parti. Et toujours en Afrique du Sud, le gouvernement sud-africain va indemniser plus d'une centaine de malades mentaux décédés en quelques mois à Johannesburg de mauvais traitements ou faute de soins et de nourriture, dans des conditions qui ont choqué le pays. L'État et la plupart de ses familles sont parvenus à un accord sur le versement pour chaque plaignant de 13 500 euros. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui une avocate des victimes, Adila Hassim.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, la coalition internationale menée par les États-Unis a annoncé avoir tué au moins 100 combattants des forces pro-régime dans l'est du pays. Yacouba Ouedraogo.
Les raids de la coalition ont eu lieu la nuit dernière dans la province de Deir ez-Zor. D'après le commandant militaire américain pour le Moyen-Orient, les frappes de la coalition ont été menées en riposte à une attaque contre le quartier général des rebelles. L'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état de 45 morts dans les rangs des forces pro-Bachar, ajoutant que les frappes du régime syrien sur la rébellion ont tué 36 civils et ont fait 185 morts depuis lundi. Ces combats interviennent sur fond de tensions entre Damas et Washington. Les États-Unis accusent le régime syrien d'avoir utilisé des armes chimiques. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce jeudi pour discuter d'une trêve humanitaire d'un mois réclamée par les agences onusiennes basées à Damas.
Yacouba Ouedraogo, Salah Abdeslam a regagné aujourd'hui, cet après-midi, la prison de Fleury-Mérogis près de Paris, après avoir refusé de retourner à Bruxelles, où il est jugé depuis lundi pour une fusillade en mars 2016. Seul membre encore en vie des commandos djihadistes du 13 novembre 2015 à Paris, Salah Abdeslam avait comparu au premier jour de son procès, mais avait ensuite déclaré qu'il ne souhaitait plus retourner au tribunal. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Place à la Minute Éco, la revue de l'actualité économique en Afrique et ailleurs. Éric Manirakiza.
La Côte d'Ivoire a besoin d'entreprises plus performantes pour devenir un pays émergent. Abidjan vise de prendre cette place dès 2020. La Banque mondiale déplore cependant l'absence des technologies modernes et des investissements dans la recherche et l'innovation. La productivité du travail et du capital d'une entreprise est 3 à 4 fois inférieure à celle d'une entreprise en Indonésie, au Maroc ou en Chine. L'institution de Bretton Woods appelle à changer de stratégie en urgence. La Côte d'Ivoire reste la première économie francophone d'Afrique de l'Ouest, mais le niveau actuel du revenu par habitant est inférieur à celui du début des années 1980. Une Mona Lisa africaine aux enchères à Londres. Ce tableau est estimé entre 200 000 et 300 000 livres. Il s'agit du portrait de la princesse Ife Adetutu Ademiluyi, surnommée Tutu, peint en 1974 par l'artiste nigérien Ben Enuonu. Ce chef d'œuvre est un symbole d'espoir et de régénération au Nigeria. Friction commerciale entre la Chine et les États-Unis à la suite des enquêtes sur des importations chinoises. Washington applique des droits de sauvegarde sur des panneaux solaires chinois et les grandes machines à laver, l'acier, feuilles d'aluminium, bois contreplaqué. Pékin n'exclut pas une mesure de rétorsion visant l'agriculture, en particulier le soja, et une enquête anti-dumping sur le sorgho américain est en cours. La Chine a acheté en 2017 pour 14 milliards de dollars de soja américain.
C'est le sport maintenant avec vous, Nicolas Pineau. Bonsoir.
Et bonsoir Anastasie, bonsoir à tous.
J-1 avant l'ouverture des JO d'hiver 2018 en Corée du Sud. À quoi peut-on s'attendre pour l'Afrique ?
Au total, 8 pays africains seront représentés aux Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang. Une participation africaine inédite dans toute l'histoire de ces Jeux. Les 23e Jeux Olympiques d'hiver qui s'ouvrent demain en Corée du Sud, avec les débuts remarqués de l'Érythrée et du Nigeria qui seront aux côtés du Kenya, du Maroc, du Ghana, de Madagascar, de l'Afrique du Sud et du Togo. Akwasi Frimpong deviendra le premier Ghanéen à participer au Skeleton, tandis que Sabrina Simader et Mia Litiana Clerc deviendront les premières femmes à représenter respectivement le Kenya et Madagascar. L'équipe de bobsleigh du Nigeria deviendra également la première équipe africaine à participer à ce sport aux Jeux Olympiques.
L'Afrique qui rêve d'accueillir les Jeux Olympiques d'été.
Thomas Bach, le président du Comité international olympique, a indiqué que le continent africain pourrait accueillir pour la toute première fois des Jeux olympiques d'été dès l'édition 2032 ou 2036, alors que le CIO a exprimé son désir de voir les JO de la jeunesse en 2022 organisés en Afrique. On rappelle que les Jeux olympiques d'été 2024 auront lieu à Paris et ceux de 2028 à Los Angeles.
Basket féminin à présent, les adversaires des équipes africaines au Mondial 2018 sont connus.
Et oui, l'équipe du Sénégal affrontera les États-Unis, la Lettonie et la Chine dans le groupe D de la Coupe du Monde 2018. Elle aura lieu en septembre prochain en Espagne. Dans le groupe B, les championnes d'Afrique nigérianes défieront, elles, les Australiennes, les Turques et les Argentines.
Et on se quitte, Nicolas, avec la NBA, le championnat de basket nord-américain.
LeBron James a offert le panier de la victoire aux Cavaliers de Cleveland, venu à bout de Minnesota dans les prolongations 140 à 138 en Floride. Houston et son joueur vedette James Harden ont confirmé leur grande forme en dominant Miami 109 à 101. À noter les 41 points de James Harden. De leur côté, les Spurs de San Antonio ont entamé leur série de 6 matchs à l'extérieur par une victoire sur les Suns de Phoenix 129 à 80. Enfin, à Détroit, les Pistons se sont imposés face aux Nets de Brooklyn 115 à 106.
C'était Nicolas Pineau.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiech avec vous pour la deuxième partie du Monde Aujourd'hui. Voici les dossiers du jour. Très faible mobilisation pour la journée de la colère à N'Djamena, où les rassemblements ont été interdits par les autorités tchadiennes. Une forte présence policière était visible dans la capitale. Nathalie Barge a joint Mahamat Nour Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits humains. Écoutons-le.
La mobilisation, il est vrai, n'a pas été très forte, nous le reconnaissons. Cela ne nous surprend pas parce que les intimidations répétées du ministre de l'administration du territoire et de la sécurité publique, M. Bachir, qui avait d'ailleurs la veille menacé les dissolutions des partis politiques et les associations de la société civile qui tenteraient d'organiser une marche. Et il a mis sa menace à exécution. Quand il a suspendu les activités de 10 partis politiques, il y a ça, et puis il n'hésite pas à menacer, réprimer toute manifestation qui passe outre à l'interdiction. Nous l'avons toujours dit, le droit de manifester est un droit constitutionnel, et l'interdiction de toute marche a toujours été systématique au Tchad. Mais malgré ça, malgré les intimidations, malgré ceci, l'armada, les armes de guerre et autres groupes importants, plus gendarmerie, police, gardes nomades et autres, qui avaient quadrillé pratiquement la ville. Malgré tout ça, les leaders des organisations qui sont membres de notre collectif sont descendus dans la rue.
Qu'en est-il de la grève générale illimitée?
La grève a été décrétée hier suite à une assemblée générale qui avait regroupé la plateforme revendicative des trois syndicats. A donc, suite à cette assemblée générale, avait décrété une grève illimitée.
Qu'attendez-vous de la part du gouvernement?
Ils font semblant de négocier avec le syndicat. Mais en fait, ils ne cèdent sur rien du tout. Ils exigent des syndicats de concession. Or, il est difficile, vous comprenez, pour un fonctionnaire de voir son salaire abattu à près de 50%. Et ces abattements sont survenus au moment où il y a une hausse quasi simultanée des produits de première nécessité, à savoir le carburant, l'eau, l'électricité, etc. Et ça, c'est intolérable. Le gouvernement n'accepte pas, il dit que c'est les bailleurs qui l'ont contraint à ces mesures antisociales. Or, la mauvaise gestion de notre gouvernement a fait que tous les secteurs qui génèrent des recettes ont à la tête des responsables qui appartiennent tous à la famille de M. Déby. Elles sont intouchables et elles détournent systématiquement toutes les recettes.
L'augmentation de l'impôt sur le revenu, quelle catégorie de salaire touche-t-elle en particulier?
Toutes les catégories. L'impôt sur le revenu à l'époque était de 10,5% par salarié. Maintenant, c'est le triple.
C'était Mahamat Nour Ibedou, porte-parole du collectif de la société civile contestant les mesures d'austérité au Tchad.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Bénin, la Cour constitutionnelle est réduite à 6 sages depuis le 26 janvier dernier, depuis la démission du magistrat Simplice Datto, l'un des conseillers à la Cour. À 5 mois de la fin du mandat des conseillers de la plus haute juridiction du pays, cette démission est perçue comme une manœuvre du gouvernement talon pour fragiliser et contrôler l'institution. Les précisions avec notre correspondante Ginette Fleur-Adindé.
En 28 ans de vie constitutionnelle, c'est bien la première fois qu'un sage de la Cour constitutionnelle démissionne en pleine situation de crise. Les Béninois ont été surpris par ce départ inattendu, surtout au moment où il est attendu de cette institution des décisions pour décrisper la situation sociale du pays. À la Cour, c'est un silence total autour de cette démission. Le secrétaire général de l'institution s'est prêté à nos questions. Pour lui, les raisons de cette démission sont connues du président de la Cour et du démissionnaire.
Je ne saurais vous dire à la date d'aujourd'hui les raisons qui motivent cette démission. Le constituant et le législateur organique ont tout prévu et la Cour fonctionne tout à fait normalement.
Pour certains hommes de droit, si la loi fondamentale permettait à tout ça de déposer quand ils le désirent son tablier, la période n'était pas favorable à un départ.
C'est vrai que du point de vue du droit, c'est prévu, mais dans un tel contexte où les médias attaquaient la Cour constitutionnelle, un membre de cette institution, je pense que même si on a envie de démissionner, on devrait attendre pour ne serait-ce que se sacrifier pour la nation.
Mais pour d'autres comme Bastien Salami, cette décision est le signe d'un malaise profond existant au sein de l'institution.
La Cour s'est trompée volontairement dans un but précis. Je suis à l'aise pour dire aujourd'hui qu'en réalité, il y a un malaise profond au niveau de cette Cour, de sorte que le conseiller qui a démissionné n'est certainement pas le seul.
Le conseiller démissionnaire a été nommé par le président de la République et donc il appartient au chef de l'État actuel de nommer son remplaçant et c'est ce qui attise la méfiance de la classe politique et de la société civile. Plusieurs associations ont appelé le chef de l'État à ne pas fragiliser les institutions de la République. Le clergé s'y est même mêlé à travers une conférence de presse à appeler les hommes politiques à cesser d'utiliser l'agent à des fins peu recommandables.
Que tous les fils et filles du Bénin fassent reculer le pouvoir de l'argent sur la vie politique nationale. Cette pratique mène à l'impasse et érige à petits coups un système d'approvisionnement matériel, moral et spirituel de notre société.
En l'absence d'une version officielle des raisons de cette démission, les rumeurs vont bon train. Le ministre de la Justice, Joseph Diogbenou, explique que le gouvernement Talon est conscient de ce que les décisions de la Cour sont inattaquables.
Nous sommes des êtres humains de liberté. Le libre arbitre est intrinsèque à l'être, est consubstantiel à l'être. Et c'est ce qui fait les grandes nations. Je pense que ce n'est pas une question de littérature ni de mathématiques. C'est une question d'hommes et de femmes qui, à un moment donné, se prononcent et apprécient. Et il s'agira de transformer les difficultés en opportunités et de faire avancer notre pays.
Conformément au règlement intérieur de la Cour, son remplaçant devrait être nommé au cours du mois de la démission, c'est-à-dire en janvier dernier. Au grand étonnement de l'opinion, le gouvernement qui doit procéder à cette nomination n'en parle pas. Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Bénin, sur Fraternité FM à Parakou.
À Brazzaville, le gouvernement a décidé de dissoudre la société d'électricité et celle de distribution d'eau à cause de leur contre-performance. Les populations lassées par les coupures intempestives d'eau et de courant se réjouissent de cette annonce qu'elles voient comme une sanction. Reportage à Brazzaville de notre correspondant Gwelangoussou.
Pour de nombreux Congolais, la dissolution de la SN2 est un soulagement. La mauvaise qualité des prestations est le principal motif de cette satisfaction. Dimitri Sobeleka, un habitant du quartier Wenze, est par exemple obligé de monter plusieurs fois sur la terrasse de sa maison pour lancer le générateur à la moindre coupure du courant.
On a passé pratiquement 2 jours sans électricité et le groupe a fonctionné pendant ces 2 jours-là. Ça nous met vraiment en difficulté. Je pense que c'est peut-être quelque part un soulagement dans le sens où la gestion sera autrement que ce que nous vivons maintenant parce qu'il arrive de moments où pour une seule facture, on veut vous couper l'électricité. Alors que quand on nous déleste, ils nous disent beau.
À Moutabala, un autre quartier de Brazzaville, les populations côtoient l'insécurité faute d'électricité. Albon Tieté, l'un des habitants de ce quartier, déplore le retour du grand banditisme.
Ces derniers temps, on peut faire 2 jours sans électricité. Bien sûr, il y a l'insécurité, les gens ont peur. Et surtout ces derniers temps, les voleurs sont en train de les voler parce que pratiquement nous sommes dans les noirs.
Mais les responsables des associations des intérêts des consommateurs appellent les populations à la prudence. Ils estiment que la dissolution annoncée par les autorités de la SNE et de la SNDE est un véritable saut dans l'inconnu. Maire Mons Babunga, secrétaire exécutif de l'Association pour la défense des droits des consommateurs du Congo.
La joie, on a dissous. Maintenant, nos craintes, c'est que les nouveaux investisseurs qui vont arriver, est-ce qu'ils vont nous offrir la meilleure qualité de service? Est-ce que les investisseurs qui vont arriver vont maintenir surtout les coûts actuels qui doivent tenir compte du pouvoir d'achat du consommateur congolais? Nous souhaiterons que les associations de consommateurs soient impliquées dans les réflexions qui seront mises en chantier afin de donner notre point de vue.
De leur côté, les travailleurs de 2 sociétés liquidées font des insomnies. Leur avenir est très incertain. C'est ce que traduit ici Edouard Adzotsa, syndicaliste.
vous donner l'eau et le courant, qui sont du domaine de la souveraineté, à des privés, ce serait une erreur très grave que le Congo pourra payer cher. Maintenant, le gouvernement va dire qu'il n'y aura pas de licenciement. Mais ça, c'est un leurre, parce qu'un privé n'a que le profit. Là où le gouvernement n'a pas pu, le privé ne viendra pas. Les plaintes des travailleurs sont réelles. Il ne faut pas qu'on se leurre la face.
La dissolution de la société d'électricité ainsi que celle de la distribution d'eau est motivée par le manque d'argent au niveau de l'État qui ne peut plus continuer de les financer. Le dossier est désormais sur la table du Parlement qui prendra une décision finale. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville sur le 101.9 FM.
Le président Donald Trump veut une parade militaire pour la fête nationale américaine, comme celle qu'il a vue sur les Champs-Élysées pendant la fête nationale française. Le Pentagone est déjà à pied d'œuvre pour un défilé militaire le 4 juillet à Washington. Lionel Gaïma.
Le Pentagone est déjà à pied d'œuvre pour un défilé militaire le 4 juillet à Washington, a fait savoir James Mattis, le secrétaire à la Défense.
Nous sommes en train de mettre ensemble quelques options et nous allons les envoyer à la Maison-Blanche pour une décision.
Tenter de comprendre d'où vient cette soudaine envie présidentielle n'est pas chose évidente. Pour le patron du Pentagone, c'est simplement l'amour du président pour les troupes.
Le respect du président, sa passion pour l'armée, je crois, peuvent expliquer sa volonté.
Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Le général à la retraite Paul Eaton n'y perçoit que du narcissisme.
Ça n'a rien à voir avec les troupes. C'est pour satisfaire l'ego du chef suprême de notre armée.
Le président Trump a souvent dit qu'il voulait une meilleure parade militaire que celle qu'il a vue le 14 juillet dernier à Paris. Les défilés militaires grandioses sont très rares aux États-Unis. Le plus récent remonte aux années 90, lorsque les troupes américaines célébraient leur victoire dans la première guerre du Golfe. Les détracteurs disent que les parades militaires sont souvent associées aux dictatures, pour exemple la Corée du Nord avec ses missiles, les célébrations de Moscou ou le grand défilé militaire à Pékin pendant la visite de Donald Trump en Chine. Pour le général Eaton, l'armée a des choses plus importantes à faire.
Avec la guerre en cours en Afghanistan, l'Irak où nous sommes présents et peut-être des préparatifs pour faire face à la Corée du Nord, les troupes n'ont simplement pas le temps. C'est tout juste une colossale et mauvaise idée.
Avec le budget du Pentagone tout juste approuvé par le Sénat, trouver l'argent pour une parade militaire coûteuse peut être compliqué. Mais le commandant en chef de l'armée américaine est connu pour ne jamais reculer.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h, tout universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
No limit, I'm a fucking soldier. Ay, always lit, yeah, I'm never sober. It's for 3 days in a row, y'all be coming over. Told that bitch to kick rock, she act like it's a boulder. Ay, Rory, shopping, that mean copping. Always popping, hella popping. She's a bopper, homie hopping. Ain't no stopping, album dropping. Got the city on fire. Lying on me like she tired. I'ma have to fuck around and call Kamaya. Turn up the pot, jambalaya. And girl, hit it one time.
nous quittons sur la musique de Cardi B et ses amis. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, c'était Cheikh Thierrot, assisté de Nachouane Kalé. Je suis Anastasie Tudiège. Pour l'actualité 24h sur 24, rendez-vous sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Très belle soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique.